divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Christine Musselin, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous accueillir à l'antenne de l'Union rationaliste. Vous êtes sociologue, chercheur au CSO, le Centre de sociologie des organisations de Sciences Po, Institut d'études politiques de Paris, dont vous avez été la directrice scientifique à la suite de Bruno Latour. Vous êtes spécialiste des universités et du système d'enseignement supérieur en France, mais aussi à l'étranger. Et vous avez publié, entre autres ouvrages, deux livres dont les beaux titres se répondent en clin d'œil ou en écho. La longue marche des universités, que vous avez publié en 2001 au PUF, Presse universitaire de France, ouvrage dans lequel vous étudiez l'histoire des universités depuis les facultés napoléoniennes jusqu'à l'autonomie des universités, l'autonomisation à partir de 1968. Et vous avez publié en 2017, 16 ans après, aux presses de Sciences Po, La grande course des universités. Il y a donc eu à la fois une longue marche, reprise du langage maoïste, et vous avez écrit dans ce premier ouvrage la longue histoire des universités, des facultés aux nouvelles universités. Et puis, après cette longue marche, il y a une grande course. Alors derrière ces deux jolies formules oxymoriques décrivant deux allures différentes, celle de la marche, celle de la course, quelles ont été, Christine Musselin, les grandes étapes de cette histoire où, à présent, le domaine du savoir et de la science n'est plus jugé à une échelle subspéciée aeternitatis, mais enjoint à courir au plus vite dans la compétition internationale?
Alors peut-être tout d'abord, faut-il préciser que l'histoire des universités que j'ai racontée dans la longue marche est vraiment une histoire orientée. Je ne suis pas historienne, je ne me prétends absolument pas historienne, et d'ailleurs j'ai fait une analyse secondaire finalement de travaux historiques, et je suis partie des travaux que j'avais faits dans les années 90 sur les universités françaises et allemandes pour essayer de réfléchir à d'où vient finalement le modèle universitaire français tel que je l'avais étudié. Et là je me suis aperçue qu'en fait il trouvait ses origines dans la suppression des universités sous la Révolution française et dans la création de l'université impériale par Napoléon. Et que l'histoire des universités françaises était une histoire très contrariée, en tous les cas, pour ce qui est de l'histoire des établissements. On a toujours eu une université avec un grand U, mais si on regarde les établissements, c'est une histoire très contrariée, avec une grande période de vide, finalement, entre l'université impériale jusqu'à la loi de 1968. Et c'est cette persistance que j'ai essayé d'analyser dans l'ouvrage, en essayant de montrer que malgré les réformes, donc la création de l'université impériale, pour prendre vraiment les très grandes étapes, la loi de 1896, avec toutes les décisions qui l'ont précédée, et puis 1968, la loi Edgar Faure, donc malgré toutes ces réformes, on avait une permanence du fait que les universités françaises, en tant qu'établissement, n'existaient pas. Et une des explications que je donne dans le livre, et donc c'est pour ça que je parle d'une histoire orientée, il ne s'agissait pas de retracer toute l'histoire des universités françaises, l'explication que j'en donne, c'est qu'à chaque fois, on s'est beaucoup polarisé sur le fonctionnement des universités, mais sans changer la relation des universités avec le ministère, qui lui restait dans une tradition très disciplinaire de gestion des disciplines, et sans changer la relation entre le ministère et la profession académique. Ce qui est bien que les universités, à chaque fois qu'on essayait de les transformer, restaient sur ces piliers qui étaient la discipline, facultés. Oui. Et donc, on avait une république des facultés, en fait, jusqu'en 1968. La loi de 68 change les choses, puisqu'on recrée cette fois-ci des institutions universitaires, ce qui veut dire que nos universités actuelles sont très récentes, très jeunes, en tant qu'institutions. On les recrée, mais en même temps, quand on regarde le fonctionnement du ministère, pendant presque 20 ans, il ne va pas changer. Une chose très simple, si on prend l'organigramme du ministère, il reste organisé par discipline. Donc il y a le bureau des sciences, le bureau des lettres, il n'y a pas le bureau des établissements, jusqu'à l'introduction de la politique contractuelle. Petite mesure, une circulaire prise en 89, qui va permettre donc de passer des contrats à 4 ans, à l'époque, entre chaque université et le ministère, de créer enfin un bureau des établissements et d'avoir une relation directe entre le ministère et les établissements. Alors les choses changent effectivement très rapidement dans les années 2000. Ces établissements naissants, je dirais, en tant qu'institution, en tant que lieu capable de définir un projet commun, au-delà, je dirais, des appartenances facultaires, ou en essayant, en tous les cas, d'être au-delà des différences, enfin des spécificités facultaires, ces établissements vont être tout à coup confrontés à deux mouvements que j'analyse donc dans la grande course des universités. Un premier mouvement qui est celui d'une mise en compétition. C'est-à-dire que le gouvernement français va développer des instruments qui vont pousser les universités, les universitaires, les laboratoires, c'est un mouvement très général qui touche tous les niveaux, à rentrer en compétition les uns avec les autres de façon à obtenir des ressources. D'un côté, donc, il y a ce mouvement-là. Et de l'autre côté, on a un autre mouvement qui est celui d'une volonté de réforme du paysage universitaire français, à la fois pour faire émerger ce que j'appellerais des champions universitaires qui vont être visibles au niveau international, et en même temps pour essayer de rapprocher les trois grands secteurs qui se sont constitués au sein de l'espace français, les universités, les grandes écoles et les organismes de recherche. Donc cette fois-ci, une réforme plus institutionnelle de l'enseignement supérieur et de la recherche française.
Quand vous analysez cette mise en compétition des universités entre elles, vous notez la contradiction qu'il peut y avoir avec les principes qui ont été longtemps ceux de la France républicaine, c'est-à-dire les principes d'égalité et d'uniformité qui régulaient, en théorie en tout cas, le système universitaire français. Comment est-ce que la tradition républicaine française peut s'accommoder de cette modification majeure?
Enfin, comme vous l'avez dit, tout ça, c'était en théorie. C'est-à-dire que les différences entre les universités françaises, entre les diplômes délivrés par ces universités, dans la réalité, ils avaient déjà des valeurs assez différentes. C'est-à-dire qu'une université, voilà, bien sûr, il n'y avait pas un classement bien établi, les choses étaient très implicites.
L'heure n'était pas à l'évaluation.
Voilà, on y reviendra peut-être, il y avait déjà des évaluations. Mais en tous les cas, on ne pouvait pas inscrire sur le papier que telle université n'était pas équivalente à telle autre, que tel diplôme délivré dans telle discipline n'était pas équivalent au même diplôme, même niveau de diplôme délivré par une autre université dans la même discipline. Vous ne pouvez pas l'écrire, mais tout le monde le savait. Si vous reprenez le livre de Christophe Charles, La République des universitaires, il montre très bien que les carrières des universitaires français en lettres au tournant du 19e et du 20e siècle se faisaient en commençant en province et que le but ultime, c'était le poste à Paris. Donc, il y avait déjà, en fait, une hiérarchie implicite. Là, je parle d'une hiérarchie géographique. Il y en avait d'autres. En plus, les choses étaient différentes en lettres et en sciences, par exemple. Mais il y avait déjà une hiérarchie implicite. Ce qui change dans les années 2000, c'est moins finalement le fait qu'il y ait une hiérarchie. C'est surtout le fait qu'on se permette de dire qu'elle existe et de la mettre en évidence. Voilà.
Donc, vous y voyez moins une mise en concurrence libérale que une explicitation de ce qui se faisait déjà?
Je dirais qu'il y a les deux en même temps. Il y a à la fois une explicitation de ce qui se faisait déjà et une intensification de ce qui se faisait déjà. Voilà, c'est plutôt les deux mouvements en même temps. C'est la même chose en beaucoup plus fort. C'est un petit peu ça la grande différence de ce qui se passe. Et en même temps, c'est le fait que l'on le dise,
on l'assume,
que ça soit affirmé dans les discours, que ça soit porté par les discours des politiques, ce qu'ils ne faisaient pas jusque-là. C'est-à-dire que, en caricaturant, en gros, le discours des ministres de l'enseignement supérieur jusqu'au début des années 2000, c'est de dire il y a des inégalités entre les universités qui se sont constituées dans l'histoire, dans leur trajectoire, et il faut qu'on les réduise, il faut qu'on fasse du rattrapage. Et de fait, quand on regardait les politiques qui étaient menées, ils avaient beaucoup de mal, même quand ils le voulaient d'ailleurs, vraiment, ils avaient beaucoup de mal à le mettre en œuvre. Bon, on arrête ce discours-là et on dit il faut en fait un paysage beaucoup plus diversifié, beaucoup plus stratifié. On va reconnaître qu'il y a des performances de nature différente, de niveau différent, et donc on va en tenir compte et on va l'afficher.
D'accord.
Voilà, c'est un petit peu, de manière encore une fois très caricaturale, la transformation.
Donc, vous le lisez comme une reconnaissance empirique ?
Oui, on peut dire ça. Oui, oui bien sûr.
D'accord.
Oui, on peut dire ça.
Alors, dans cette logique de mise en compétition des universités, que pensez-vous de ce qu'on pourrait appeler la cantophrénie, cette manie de l'évaluation permanente, du classement, qui semble être l'aune par lequel on juge le progrès des sciences et de la recherche, alors que le modèle d'une recherche libre et désintéressée semblait être le paradigme ancien? Par exemple, c'était celui par lequel Jean Perrin définissait la recherche et avait créé le CNRS.
Moi, j'aurais tendance à distinguer deux choses. D'un côté, l'évaluation et de l'autre, la quantification. Mm-hmm. Et je pense que ce sont deux choses assez différentes. L'évaluation, ça me semble assez indispensable parce qu'on ne peut pas tout publier, on ne peut pas tout financer. Et il me semble assez normal qu'il y ait un regard sur ce qui est produit, qu'il y ait des décisions qui soient prises quant à ce qu'il faut effectivement financer, quant à ce qu'il faut développer. Donc, l'évaluation, c'est un outil, me semble-t-il, nécessaire pour pouvoir mener une politique scientifique, pour pouvoir apprécier les résultats de recherche. Et d'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes s'évaluent très régulièrement. On est d'ailleurs à la fois avec des évaluations qui sont organisées pour les revues, pour les projets, mais aussi, je dirais, au quotidien. On est toujours sous le regard des autres et des pairs quand on fait de la science. Donc ça me paraît important. Et je crois qu'il est pratiquement impossible d'avoir une politique sans avoir une évaluation de ce qui se fait et sans rendre des comptes. Il me paraît absolument normal, surtout dans le système français où la plupart des chercheurs et des enseignants-chercheurs sont sous statut public, de rendre des comptes sur l'activité. Donc l'évaluation, je pense que ça ne pose pas de problème, à condition bien évidemment qu'elle ne soit pas trop fréquente.
Ce qui est quand même une tendance actuelle, de demander aux universitaires d'évaluer leurs collègues, d'évaluer... Il y a comme une manie de l'évaluation.
Il y a une manie de l'évaluation, mais je ne pense pas qu'elle se soit intensifiée tant que cela. Je pense en plus que l'évaluation, à titre personnel, c'est quelque chose d'utile, surtout dans les carrières universitaires où finalement les choses sont souvent très implicites. Moi, je suis CNRS, je suis dans un laboratoire qui est une unité mixte de CNRS. Je suis évaluée tous les 2 ans et demi, depuis le début de ma carrière. J'ai toujours trouvé ça très utile. Cette évaluation, elle est déconnectée de la promotion. Donc, elle n'est pas liée à ma progression de carrière, ni même à des augmentations de salaire, pas du tout. Mais moi, je trouve que ça me donne un regard sur ce que je fais, qui est celui de mon institution, et que c'est un regard utile. J'ai jamais vécu ça comme étant quelque chose de lourd, de pesant. Voilà, et ça existe depuis très longtemps. Ce qui s'est développé beaucoup plus, c'est la quantification, c'est-à-dire le fait de transformer les évaluations en chiffres, de se baser uniquement sur les indicateurs. Et là, j'ai beaucoup plus de problèmes avec ça. Non pas que les indicateurs ne soient pas utiles. Quand je suis arrivée à la direction scientifique de Sciences Po, il y avait très peu d'indicateurs sur la recherche et ça me manquait. J'avais besoin de savoir ce qui se passait dans les laboratoires. Pas pour piloter bêtement ce qu'ils étaient en train de faire, tout simplement pour savoir ce qui se faisait. Donc, on a besoin d'un certain nombre d'indicateurs. Quand ça devient le seul critère d'évaluation, de regard sur l'activité, là, ça devient très problématique. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus le contenu. Et c'est là que, vraiment, pour moi, il y a une grande différence entre évaluer et quantifier. Quantifier, c'est finalement réduire toute une activité intellectuelle à des chiffres, ce qu'on ne peut pas faire. Il faut absolument regarder le contenu. On ne peut pas se contenter, je me suis souvent battue avec mes collègues là-dessus, on ne peut pas se contenter du nombre d'articles publiés dans des revues d'excellence. Il faut regarder quel est le contenu de ces articles,
absolument,
ce qu'ils ont apporté à la connaissance et en quoi ce sont de bons articles. Donc voilà, c'est un petit peu la balance, je trouve, qu'on a du mal à trouver actuellement entre une évaluation qualitative qui permette justement de travailler sur les contenus et une évaluation qui va se baser uniquement sur les classements, avec en plus des classements ordinaux comme ceux qu'on a dans les fameux rankings internationaux.
Oui, alors que diriez-vous de ces classements-là, du classement de Shanghai, etc., par rapport à la France ?
Alors moi, le classement de Shanghai, je le trouve très amusant. Enfin, en général, il ne fait pas tellement rire.
Non,
ce qui, voilà. Il y a une sorte de contradiction dans le classement de Shanghai que j'aime bien souligner parce que, en fait, c'est un classement extrêmement classique. au sens où ce qu'il regarde, c'est la performance scientifique définie de manière extrêmement traditionnelle, basée beaucoup plus sur l'activité passée, puisqu'on va regarder par exemple les prix Nobel, hein, donc en général les prix Nobel on les a pas en tout début de carrière, beaucoup plus donc sur le passé que sur le présent, et je suis toujours fascinée par le fait que on se réfère continuellement à ce classement, et que les gouvernements eux-mêmes s'y réfèrent, alors que par ailleurs, ils nous incitent à développer l'innovation, la troisième mission des universités, autant de choses qui ne sont absolument pas prises en compte par le classement de Shanghai. Donc, ce que je trouve très intéressant dans les classements, c'est comment ils ont réussi finalement à devenir des institutions.
Et, alors qu'il est facile de les déconstruire.
Oui, ça a été fait des milliers de fois, parce que effectivement, ils sont... ne sont pas très robustes d'un point de vue méthodologique, mais en même temps, il reste un point de référence. Donc, voilà. Et ce qui est là aussi intéressant, c'est de voir qu'il y en a plusieurs qui sont assez différents dans leur conception, pas tellement dans leurs résultats. Ça, c'est autre chose. Mais en tous les cas, dans leur conception, ils sont assez différents. Et je pense que plus il y a de classements, mieux c'est. Finalement, ça permet de diversifier.
D'accord. Bon, vous avez été directrice scientifique de l'Institut d'études politiques, vous êtes au CNRS, vous connaissez le système français assez bien. Quelles seraient les pistes que vous pourriez indiquer pour tenter de réduire la fracture culturelle en France ? En quelques mots.
Question impossible. Mais je pense que c'est vraiment par la diversité des publics. Un des grands problèmes français, c'est, me semble-t-il, hein, le fait que nous ayons des élites qui se ressemblent beaucoup, qui viennent toutes du même milieu. Il y a quelques années, je crois que c'est Pierre Vels, quand il était à la tête de l'école des Ponts, qui faisait remarquer que la plupart des étudiants qu'il avait dans son école, il aurait certainement d'ailleurs parlé d'élèves plus que d'étudiants, avait une maman qui était enseignante et un papa ingénieur. Voilà. Donc, je crois que tant qu'on a une reproduction sociale aussi forte et que on s'interdit de recruter de manière plus diversifiée, et recruter de manière plus diversifiée, ça veut dire reconnaître aussi que des compétences peuvent être très diverses. C'est ça le problème, finalement. Je vais le dire de manière un peu caricaturale là aussi. Le problème, c'est le concours. Le concours, forcément, ça fait rentrer dans un moule. Plus on a de variété dans la manière dont on va évaluer les compétences, plus on aura la chance, plutôt d'ailleurs, de recruter des gens qui auront des profils différents et d'enrichir.
Donc, vous souhaitez, vous, contrairement à l'idée républicaine de concours, introduire plus de diversité.
Oui.
Nous allons clore ce débat sur cette idée. Christine Musselin, je vous remercie d'avoir posé votre pierre à la réflexion problématique sur les universités.
Merci beaucoup.
Je rappelle le titre de l'ouvrage de Christine Musselin, La grande course des universités. Je remercie Bernard Lagnel et Dany Journeau d'avoir rendu possible cette émission. Et je vous dis au mois prochain.